Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. Il en fallait du courage et de la curiosité il y a un siècle et demi pour partir explorer la plus grande zone désertique de la planète qu'est le Sahara. Aujourd'hui, La Tête au Carré vous emmène dans les pas de ces explorateurs d'hier qui, au péril de leur vie, ont permis d'affiner les cartes géographiques, fait des découvertes archéologiques ou géologiques majeures, mais aussi découvert de nouvelles cultures. Pour nous accompagner dans cette grande traversée du désert, deux spécialistes du Sahara, Michel Pierre et Jean-Marc Duroy. Pour leur adresser vos questions, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. En fin d'émission, nous retrouverons le docteur Dominique Dupagne, comme tous les jeudis. Aujourd'hui, Dominique se demandera si faire du sport est si bon que ça pour notre santé. Et comme chaque jour, à la une de la science, avec Axel Villard. Bonjour Axel.
Bonjour.
Aujourd'hui, on s'intéresse à un état très rare de la matière, les quasi-cristaux.
Oui Daniel, à la fois ordonné mais sans réelle régularité, paradoxe mathématique, la matière dans les quasi-cristaux est dans un état bien étrange. On part sur ces traces dans les météorites avec le chimiste et académicien Denis Gracias.
Vos questions et vos réactions sur Twitter avec le mot-clé l'attaque. Voilà pour le programme de cette Tête au Carré, réalisé par Marion Lelay et préparé par Chantal Le Montagnier.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Deux passionnés du Sahara autour de la table, Jean-Marc Duroux et Michel Pierre. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors vous étiez venus il y a un mois dans La Tête au Carré et il y avait tellement de choses à dire sur ce grand désert, le plus grand du monde, son histoire, ses richesses, que Mathieu Vidard et son équipe ont décidé de poursuivre la discussion avec ce deuxième épisode et j'en suis absolument ravi. Aujourd'hui donc nous allons plus particulièrement nous intéresser aux explorateurs qui au cours des 150 dernières années sont partis à la découverte du Sahara, désert dont les Occidentaux ne savaient quasiment rien. Il y a encore très peu de temps, Jean-Marc Duroux.
Oui, effectivement, il y a deux siècles, le Sahara était terra incognita, au même titre que l'ensemble de l'intérieur de l'Afrique, alors qu'en fait, l'Occident avait découvert le Nouveau Monde, l'Asie, le Moyen-Orient. Le Sahara restait sur les cartes un espace totalement blanc.
Ouais, une grosse bulle blanche,
une
vous dites dans
blanche,
l'un de vos livres, une grosse bulle blanche sur les cartes du 19e siècle.
Voilà, et en fait, ça s'est fait très rapidement, sous l'impulsion d'abord des Anglais, puis ensuite des Français. Les premiers explorateurs, qui sont des aventuriers, non pas des scientifiques, commencent à traverser le désert.
Michel Pierre, il y a eu des courageux, des curieux, intrépides, qui au péril de leur vie, certains sont morts de leurs expéditions dans ce désert, aux conditions, on le sait, très très rudes.
Oui, c'est vrai que l'exploration ou la découverte géographique du Sahara par l'Occident commence au 19e, mais la fascination pour cet espace est bien antérieure, oui. Puisque en particulier au Moyen Âge, il faut jamais négliger le fait qu'une partie de l'or dont l'Occident et le monde islamique de Méditerranée a besoin vient du Soudan. Donc il vient par un commerce transsaharien, ce qui fait que dès le 13e, 14e siècle, l'Occident est fasciné par cet univers. Alors, on n'ose pas et on ne peut pas, pour des raisons évidemment à la fois religieuses, d'espace et de temps y pénétrer, mais on voit bien comment les Portugais, dans leur conquête ou leur découverte au long des côtes africaines, s'intéressent à ce territoire. Parce que l'un des rêves au Moyen-Âge serait d'avoir cet or du Soudan directement, sans passer par le relais de l'islam. Ce qui fait qu'il y a un intérêt dès le Moyen-Âge, qui s'arrête à partir du moment où, au Nouveau Monde, la soif de l'or de l'Occident est en quelque sorte étanchée. On le voit bien. Si on lit, par exemple, l'article Sahara de la Grande Encyclopédie, qu'à ce moment-là, c'est vrai, au XVIIIe siècle, le Sahara n'intéresse plus l'Occident. Mais au siècle suivant, c'est différent.
Nous partons à la découverte du Sahara sur les traces des explorateurs du passé dans La Tête au Carré cet après-midi. Et puis pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Un état bien étrange de la matière, les quasi-cristaux sont à la une de la science aujourd'hui.
Un peu plus de 3 mois après leur découverte, qui vient d'être rendue publique, les chercheurs de Grenoble se disent aujourd'hui encore émerveillés par ce qu'ils ont vu un lundi de juillet sur l'écran d'un de leurs microscopes électroniques. Pour la première fois au monde, apparaissait l'image d'un nouvel état de la matière solide, quelque chose qui, pour vous et moi, ressemble à un cristal et pourtant n'en est pas un, car sa structure n'est pas conforme aux lois de la cristallographie. On l'a donc appelé quasi-cristal. L'hypothèse mathématique, jugée farfelue par certains scientifiques, et pas des moindres, devenait réalité.
Extrait d'un journal télévisé diffusé en 1986. Depuis leur découverte, les quasi-cristaux et surtout leur mode de création hors des laboratoires reste un mystère. Alliage complexe d'atomes métalliques à la fois ordonnés mais sans réelle régularité, ils sont très rares à la surface de notre planète. Un nouveau spécimen composé de cuivre, de fer et d'aluminium vient d'être déniché dans une météorite russe. L'occasion pour nous d'en discuter avec vous, Denis Gracias. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes un des quatre scientifiques à l'origine de la découverte des quasi-cristaux, directeur de recherche émérite au CNRS et membre de l'Académie des sciences. Alors, pour commencer, peut-être une explication un peu plus précise sur ce que sont ces quasi-cristaux. Ce sont des cristaux ou pas ?
Ce sont des cristaux. Mais ce sont des cristaux particuliers. Ce sont des cristaux. Ah, si je vous donne tout de suite une recette de cuisine, vous allez rester un peu.
Allez-y.
Un peu perplexe. Ce sont des cristaux, mais de dimensions plus grandes que 3. Ça vous va pas trop, ça, hein?
On voit pas. Alors, quel ingrédient c'est le 3.
Le 3, c'est notre dimension. Nous sommes à 3 dimensions, n'est-ce pas?
D'accord.
Alors on pourrait imaginer des cristaux de dimension 4, dimension 5, 6. Là, c'est 6. Bien entendu, on ne peut pas les imaginer, puisque notre esprit n'entend que 3 dimensions. Et déjà, la quatrième, ça rentre dans la science-fiction, n'est-ce pas? Je vous propose un jeu intellectuel que vous allez comprendre tout de suite. Vous prenez une feuille de papier millimétré, de papier à petits carreaux, scolaire. Voilà.
Ah ben ça y est, on l'a fait, on l'a devant nous, on vous écoute, on est tout de suite.
Vous tracez une droite, surtout quelconque.
Oui,
on y est.
Je suis pas exigeant. Surtout, ne la faites pas horizontale. Ne la faites pas verticale. Ne la faites pas à 45 degrés. Non, quelconque. Vraiment, la droite, n'importe quoi. D'accord ?
Oui.
Une fois que vous avez tracé cette droite, vous allez noircir tous les petits carrés qui sont coupés par cette droite, touchés par cette droite. Qu'est-ce que vous allez obtenir ? Vous allez obtenir un escalier. Vous allez obtenir un escalier, et cet escalier va être bizarre parce que de temps en temps la marche fera 3 petits carreaux, de temps en temps elle fera 2, et puis au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez vous apercevoir, la droite étant quelconque, j'insiste, que jamais ça ne se reproduit. C'est jamais à l'identique. Oh, c'est presque à l'identique. C'est quasi identique. Ah, quasi.
Ah, quand on y vient, on y arrive. Le quasi est là.
Et donc, l'objet que nous allons trouver, cette marche d'escalier, pour un individu qui serait à une dimension, dirait, tiens, c'est curieux, c'est un objet qui est parfaitement ordonné, qui est parfaitement régulier. Vous avez dit que c'était irrégulier. Non, mathématiquement, c'est parfaitement régulier. Et ça a toutes les propriétés d'un cristal, sauf que ce n'est pas périodique.
Quand vous avez vu ces quasi-cristaux au microscope électronique, qu'est-ce que vous avez vu ?
Peut-être un des moments les plus extraordinaires de l'existence d'un chercheur, c'est ça. Le microscope électronique nous montre la structure intime de la matière solide, et on voit toujours à peu près 2 choses. Soit, quand vous regardez un objet dont vous ne connaissez pas la nature, les électrons arrivant dans cet objet, c'est l'objet est supposé très fin pour laisser passer les électrons, et on le prépare ainsi, vont finalement diffuser, être heurter les atomes, et finalement ils vont partir un peu dans toutes les directions. Une bonne image, c'est vous roulez la nuit, il y a du brouillard, vous mettez les codes, vous mettez les phares, vous voyez, ça éclaire partout.
Mmh.
Hein, c'est de la diffusion. L'autre solution, c'est que les électrons se heurtent aux atomes, mais ceux-ci étant placés de façon périodique, il se produit un phénomène d'interférence. Ils se mettent à diffracter, tel est le mot, mais en phase. C'est-à-dire qu'il y a des directions dans lesquelles les électrons vont tous aller. Et ces directions sont discrètes. On peut les compter et elles correspondent à des figures géométriques de l'espace qu'on appelle un réseau. C'est la périodicité. En sorte que si on envoie des électrons sur un matériau qu'on ne connaît pas, ou bien on sort une collection de faisceaux très fins et parfaitement bien définis dans l'espace de faisceaux, et on va appeler l'objet qu'on regarde un cristal, ou bien on a une espèce de halo de diffusion, les électrons vont partout, et on a ce qu'on appelle un amorphe.
Alors, Denis Gracias, on comprend bien la structure très particulière de ce matériau. Ce qu'on aimerait comprendre aussi, c'est est-ce qu'on en trouve sur Terre ? Vous avez été capable d'en synthétiser dans vos laboratoires.
Oui. Alors,
ici, la nouvelle étude... ici, la Nouvelle Étude parle d'une météorite russe dans laquelle on a trouvé ce quasi-cristal. Est-ce que on trouve des quasi-cristaux ailleurs que dans les labos et dans l'espace? Est-ce qu'il en existe sur Terre à l'état naturel?
Alors, là, la réponse est simple. Le premier mot-clé, bien entendu, c'est qu'un quasi-cristal, c'est un alliage métallique, d'accord? C'est de la métallurgie. Donc, il faut, pour le fabriquer, comme on fabrique de l'acier, comme on fabrique du laiton, il faut prendre les métaux, les fondre ensemble pour fabriquer l'objet. La fabrication et le côté naturel de la fabrication tient au fait que quand on mélange les métaux, spontanément, ils prennent une certaine structure. C'est pas nous qui, avec de fines pinces Bruxelles, plaçons les atomes les uns par rapport aux autres. Donc, la découverte des quasi-cristaux en 1982 vient d'un mélange d'aluminium et de manganèse, étudié par Danny Scheschmann, mais qui l'étudiait pour évidemment d'autres raisons que de découvrir un nouvel état de la matière condensée. Ayant mélangé l'aluminium et le manganèse, le refroidissant rapidement, eh bien, il regarde au microscope et il trouve cet objet dont je vous termine juste l'analyse. Au microscope électronique, que voit-il? Il voit des faisceaux très fins. Ah, c'est un cristal. Et quand on regarde la forme que définissent ces faisceaux très fins, il y a très fins. Ce sont des pentagones. Alors là, ça c'est impossible.
Vous vous éloignez beaucoup de la question qui était, est-ce qu'on peut en trouver dans la nature, j'ai envie de dire, qui se forme sans qu'on ne fonde nous-mêmes, humains, les matériaux?
Très bien. Alors, en effet, la plupart des quasi-cristaux sont à base d'aluminium. Et l'aluminium, vous le savez, n'existe pas à l'état métallique.
Oui.
Sur la Terre. Donc, on ne peut obtenir un quasi-cristal, ceux dont je parle, en tout cas l'aluminium cuivre, que par une manufacture humaine, puisqu'il faut fabriquer de l'alu. Et donc, sur la Terre, il n'y a pas de quasi-cristaux naturels. Non pas qu'ils ne puissent pas se former, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas d'aluminium naturel. L'aluminium est sous forme de bauxite, il est sous forme de minerai, comme la quasi-totalité des métaux. D'accord ? Maintenant, ce qui s'est produit là, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il semble qu'il y ait eu un météorite au sein duquel il y a eu de l'aluminium natif, c'est-à-dire à l'état métal, pas à l'état d'oxyde. À partir de ce moment-là, s'il y a de l'aluminium dans ce météorite, qu'il y a du cuivre et du fer, le fer on sait bien qu'il y a la plupart des météorites en sont constitués, eh bien il n'y a aucune raison que ne se forme pas spontanément, naturellement, le quasi-cristal, le même que celui que l'on fait en mettant, nous, sur Terre, de l'aluminium métal avec du cuivre métal et du fer métal.
Merci. Merci Denis Gracias de nous avoir expliqué comment on avait pu obtenir ce quasi-cristal et pourquoi il se formait avant tout dans l'espace. Merci à vous. Faudra revenir dans La Tête au Carré pour une émission plus complète parce que le sujet a l'air absolument passionnant et certainement mérite plus de développement. Merci à vous Axel, à demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un oiseau parasite qui se comporte comme un véritable mafieux, l'oiseau vaché, un petit volatile brun et noir qui, comme le coucou, dépose ses œufs dans le nid d'autres espèces pour leur laisser le soin d'élever ses petits avec des techniques proches de celles de certains malfrats. D'après les résultats d'une étude comportementale sud-américaine parue hier, il pratique le repérage, il visite de très nombreuses fois le nid choisi pour y déposer ses œufs exactement au bon moment. En moyenne, il fera 39 visites en l'absence de son propriétaire. Il évite de revenir sur les lieux du crime, mais surveille de loin pour ne pas attirer l'attention de ses propres œufs. Et puis, pire que tout, il se venge si son œuf est découvert et chassé du nid. Il viendra saccager l'ensemble du nid avec acharnement, une méthode particulièrement violente dont la raison n'est pas encore complètement comprise par les auteurs. Saviez-vous que la surface du Soleil tourne moins vite que l'intérieur? Cette particularité, connue depuis des dizaines d'années, pose toujours un problème aux physiciens qui ne comprennent pas vraiment pourquoi. Une hypothèse nouvelle nous vient cette semaine de l'université d'Honolulu. Se basant sur les théories d'Einstein, les chercheurs proposent que l'expulsion des photons en masse par le Soleil crée un freinage au fur et à mesure qu'ils s'éloignent du centre de l'astre du jour. Une idée, qui implique que les photons possèdent une caractéristique supplémentaire appelée moment de force. Si cette hypothèse est vérifiée, elle pourrait s'appliquer à tous les objets énergétiques de l'univers, les étoiles et les galaxies. quand les poules ont perdu leurs dents. Comme nous, le dinosaure Limosaurus inextricabilis perdait ses dents à la fin de l'enfance, mais par contre, les siennes ne repoussaient jamais. Cette drôle de découverte parue aujourd'hui dans la revue Current Biology repose sur un gisement exceptionnel de 19 squelettes du Limosaurus, un tétrapode ancêtre des oiseaux. Ce changement radical dans l'anatomie entre l'âge adulte et l'enfance est un nouveau casse-tête pour les biologistes. C'est le premier cas identifié d'un animal carnivore durant l'enfance, devenant parfaitement herbivore à l'âge adulte. Une représentation de ce dinosaure bébé et adulte est à retrouver sur le Facebook de l'émission. Allez, dans un instant, on part en expédition dans le désert du Sahara en compagnie de deux spécialistes sur les traces des explorateurs d'hier et nos invités attendent vos questions sur la page de l'émission sur franceinter.fr.
Trading dilated pupils turn green when he looks upon me and my white guitar. He said, "Bill Dylan, you should drive off of a cliff in your car." When am I gonna find the time to breathe? Those silly screeching sirens always searching for me. They wanna lock me up because I borrowed a car. It gets my blood boiling like a bucket of tar. Isn't anybody gonna move? Isn't anybody gonna move? Well, stick around, baby, don't leave too soon. You can stay with me for a couple more moons. Isn't anybody gonna move? I lost my soul for an hour or two. It's hard to kiss the girl when she's always crying. It's even worse to keep my head when they say she.
William Zivilain dans la tête au carré avec Anybody Gonna Move sur France Inter.
La position GPS c'est 19, 59, 59, 8. Donc on est sur le 20e parallèle quasiment, à 3 mètres près. D'un côté, à l'ouest c'est l'océan, une immensité, de l'autre côté c'est le désert. Là, ça y est, c'est parti. Il me reste 6000 km à faire. La survie va dépendre uniquement des efforts quotidiens
L'explorateur Régis Belleville en plein désert saharien. Les distances sont évidemment tout de suite colossales, phénoménales, les distances à parcourir. Désert que nous allons explorer avec deux amoureux du Sahara. Jean-Marc Duroux, qui est photographe, historien des explorations sahariennes, auteur de nombreux ouvrages, dont l'exploration au Sahara chez Babel Actes Sud, le grand rêve saharien avec la collaboration de Marc Gouvenin chez Actes Sud également. Et puis autour de la table, Michel Pierre, qui est agrégé d'histoire, auteur de Sahara, le grand récit, aux éditions Belin. Vous avez aussi écrit un très bel article, Le Sahara, terre humaine, dans la revue Relief numéro 4. Alors pour l'un et l'autre, le désert, c'est vraiment une passion de jeunesse. Hein. Vous êtes tombé dans la marmite étant vraiment tout jeune, tout petit, et la passion ne s'est jamais éteinte. Hein. Jean-Marc Duroux, quel âge vous aviez quand vous avez rencontré le Sahara ?
À peu près 14-15 ans.
Ouais. Donc, vous avez tout de suite accroché ?
Immédiatement, d'autant plus que j'étais dans le sud algérien avec mes parents et on couchait chez des amis algériens dans une petite oasis. Et toute la journée, je partais avec les enfants de l'oasis à Bouricot, à Dodane, arpenter les palmeraies. Et j'adorais ça et je suis revenu et je me suis complètement passionné pour l'histoire du Sahara.
Et vous, Michel Pierre, c'était aussi très jeune, hein?
Oui, mais j'avais quelques années après, parce que Jean-Marc est tombé dans la marmite. Moi, je me suis approché du bord de la marmite à une vingtaine d'années.
Ouais. Qu'est-ce qui a retenu votre intérêt pour que vous consacriez autant de temps à ces zones a priori austères, arides, au climat rude ?
C'est, comme historien, c'est justement de raconter l'histoire du Sahara. On a toujours l'impression que c'est un espace uniquement géographique, avec un certain nombre de clichés dans la tête, et on en oublierait toute une histoire ancienne, une préhistoire absolument prodigieuse, une histoire médiévale avec l'islamisation de tout cet espace qui raconte aussi beaucoup d'éléments culturels, beaucoup de créations, et puis dans des périodes plus contemporaines, les interrogations sur la survie de groupes entiers dans des conditions éminemment difficiles et qui font preuve d'une ingéniosité, d'une invention qui est tout à fait fascinante. Donc c'est vraiment le côté humain qui m'intéresse et qui m'a toujours intéressé au Sahara.
Faites-nous prendre la mesure de cet espace absolument gigantesque qui s'étale sur de nombreux pays, une surface incroyable. Donnez-nous quelques chiffres pour qu'on prenne la mesure de ce lieu.
Bien, on est sur 8 à 9 millions de kilomètres carrés, donc on peut partir à pied effectivement de la côte mauritanienne et puis rejoindre le Nil pour ce qui est de l'ouest sur des milliers de kilomètres, et puis entre l'Atlas saharien et marocain et puis le Niger, vous avez une autre ligne nord-sud sur 2500 à 3000 kilomètres, donc on est vraiment sur des distances extrêmement conséquentes avec des paysages très variés, avec des lieux qui peuvent être paradisiaque comme toute l'économie et les oasis, par exemple, et puis des déserts qui sont là vraiment des déserts où vous avez vraiment très peu de millimètres de pluie par an, parce que ce qui fait le désert, ce sont les précipitations.
Un désert qui court sur une douzaine de pays, hein, pour avoir en tête la dimension.
Oui, si on intègre, alors c'est toujours un peu le problème, l'espace sahélien. Le Sahel, le rivage du désert. Alors c'est vrai qu'on nous sommes et nous travaillons plutôt sur un ensemble qui est à la fois le désert stricto sensu, là vraiment où la vie quasiment n'existe plus, et puis toute cette zone des bordures nord et surtout des bordures sud, où là la vie est présente et où des dizaines de millions de personnes sont habitants de cette dizaine de pays dont vous parliez.
Jean-Marc Duroux, on l'a dit, hein, jusqu'il y a encore 150 ans, cette zone géographique pourtant si vaste et si étendue était une bulle blanche sur toutes les cartes géographiques. On ne savait pas ce qu'il y avait à cet endroit-là.
Oui, parce que en définitive, ce qui se passe, c'est que à partir du 7e siècle, les invasions arabes, donc les Arabes venant d'Arabie, envahissent le Maghreb et coupent, en fait, ferment cette zone au monde occidental et au monde chrétien. En fait, seules les communautés juives vont pouvoir aller d'un côté et de l'autre de la Méditerranée et d'ailleurs renseigner l'Occident sur cette Afrique en faisant notamment des cartes. Il y a eu des très grandes écoles cartographiques juives à Majorque, notamment d'Abraham Akrest, à partir de 1375. Et puis, donc là, on est au nord, on est complètement fermé. On ne peut pas accéder, en fait. L'Occident chrétien ne peut pas accéder au Maghreb. Et puis ensuite, c'est un problème de navigation, puisque les côtes de l'Afrique vont être explorées par les Portugais qui, avec leurs caravelles, avec leur gouvernail des tambours, qui leur permettent de prendre la haute mer, et en fait de faire le tour de cette Afrique. Mais l'Afrique ne les intéresse pas vraiment. Oui. C'est la route des Indes et la route des épices qui les intéresse vers l'Est. Donc, ils vont être suivis par une quantité de pays européens qui vont vouloir aussi commercer avec l'Inde et qui vont commencer à explorer l'ensemble des côtes africaines. Ce qui a fait dire à Théodore Monod qu'au XIXe siècle, on ne connaît de l'Afrique qu'une Afrique de marins.
Oui, c'est ça. La formule est tout à fait révélatrice. Alors, parmi les premiers explorateurs et explorateurs scientifiques qui partent, on est au milieu du XIXe siècle, dans les années 1850, il y a Heinrich Barth qui a raconté par la suite ses expéditions, extrait de l'un de ses récits.
J'espérais encore apercevoir bientôt notre caravane. Je crus même un moment distinguer dans l'éloignement un convoi de chameaux. Mais c'était une illusion. Le soleil baissait et il me fallait songer à savoir où passer la nuit. Je voulais faire du feu pour indiquer ma présence à mes compagnons, mais la force me manqua pour réunir un peu de bois. Je sentais comme une fièvre s'emparer de moi. Je me couchai, presque sans connaissance. Au bout de 2 heures, je me levai et regardai autour de moi. J'aperçus à quelque distance un targhi qui arrivait lentement en regardant de tous côtés. D'une voix éteinte, je pus encore lui crier « Aman ! Aman ! De l'eau ! De l'eau ! » Ce fut avec une joie sans nom que je l'entendis aussitôt me répondre « Iwa ! Iwa ! » En quelques instants, mon sauveur se trouvait à mes côtés, me lavant et me bassinant la tête, tandis que je lui disais instinctivement à plusieurs reprises « Alhamdoulilah ! Alhamdoulilah ! »
Récit d'expédition d'Heinrich Barth, lu par Jean-Luc Debattiste sur France Culture en 2003. Michel Pierre, il a failli plusieurs fois y rester, cet explorateur, tellement les conditions sont rudes.
Barth est exceptionnel comme explorateur parce que, en fait, tous les autres explorateurs qui viennent avant au Sahara sont plus des aventuriers que des scientifiques. Barth est allemand. Il est engagé par les Anglais, l'African Association, pour découvrir l'Afrique avec deux autres Anglais, un Richardson et un Allemand, Overweg. Et ils vont traverser à partir de Tripoli l'ensemble du Sahara. Puis ces deux compagnons vont mourir. Et Barth est un homme qui s'est énormément entraîné avant de partir. Il habite Hambourg. Il se baigne hiver comme été dans la mer du Nord pour s'endurcir. Et en plus, c'est un très grand scientifique, un multidisciplinaire.
Ah oui. Il a fait de très nombreuses découvertes scientifiques, Heinrich Barth. Pardon, oui. je vous passe la parole, Michel Pierre.
Oui, il fait tous ces savants à partir effectivement de Barth ou à partir de quelqu'un qui nous est plus proche comme français, Henri Duverrier, et Duverrier le dit lui-même, alors qu'il explore, lui, les Touaregs du Nord, et qui est à la fois, il le dit, botaniste, historien, géographe, géologue. Lui-même va donner du reste son nom à un coquillage fossile. Ah oui, nous sommes en présence de cette grande école scientifique de la deuxième moitié du 19e. Et on voit bien que tous ces scientifiques, qu'ils soient allemands comme Barth, Duverrier ou les Anglais, échangent vraiment le savoir. Il y a un moment où la boussole l'emporte sur le fusil, en quelque sorte. Alors on veut un peu changer la couleur blanche de la carte, on veut bien la mettre aux couleurs de son pays, mais société de géographie.
On n'y va pas uniquement pour découvrir, pour la connaissance, on y va aussi avec l'idée de conquérir.
Pas tout de suite. Pour les Anglais, il y a vraiment l'idée des sociétés, des associations de lutte contre l'esclavage. L'esclavage musulman est quelque chose qui choque beaucoup à Londres en particulier, mais évidemment, en arrière-plan, on a aussi l'idée de contrôler. Qui a d'abord la boussole peut ensuite aller avec le fusil. La géographie, c'est la grande science du 19e et celle qui prélude aux conquêtes.
Allez, on poursuit notre traversée du désert sur les traces des grands explorateurs d'hier. Et pour adresser vos questions à nos invités, il y a toujours la page de l'émission sur franceinter.fr.
Outside my window, I can see it clearly shine.
Je ne trouve pas mon ami, la chouette se joue de la nuit.
There's an owl in the woods, I can hear it moan low.
Je ne trouve pas mon ami, la chouette s'est évanouie.
Row, rock around you, oh, ho. Row, rock around you, oh, ho. Can't escape.
C'était Lonely Drifter Karen, la chouette sur France Inter dans La Tête au Carré.
Je nous vois là au milieu du désert.
La tête.
Chercher la source d'un polluant fluvial.
Au carré.
Sur la foi d'une carte tirée d'une peinture rupestre représentant un cuirassé de la guerre civile qui est lui aussi dans le désert.
Exact.
Daniel Fievé.
Alors je me demandais à quel point il serait bon de s'asseoir et de réévaluer notre paradigme de prise de décision.
Sur France Inter.
Oui, voilà qui est sage, tête au carré sur les traces des explorateurs du Sahara en compagnie de Jean-Marc Duroux et Michel Pierre. Nous parlions à l'instant d'Heinrich Barthes et Jean-Marc Duroux, vous me disiez, mais on n'a pas assez insisté sur l'apport scientifique oui. de cet explorateur.
À la fois, c'est un grand sportif parce qu'il va quand même faire 16 000 km à pied à travers le désert. Ses deux compagnons meurent et il arrive à revenir, il va jusqu'à Tombouctou. Il fait des études extraordinaires au niveau linguiste, il découvre des manuscrits anciens. Et ce que je voulais surtout insister, c'est surtout que c'est le premier explorateur à cette époque à respecter l'histoire des Africains et à respecter les peuples qu'il rencontre. Il y aura Duverrier ensuite, qui est un émule de Barthes, qui lui aussi ira chez les Touaregs et pour la première fois vivra dans le Tassili Alger et rapportera d'ailleurs un livre magnifique, Les Touaregs du Nord. Et ces deux explorateurs ont un véritable respect pour les populations qu'ils rencontrent.
Michel-Pierre Duverrier, c'est un peu le premier travail d'ethnologie poussé. Il va rester deux ans avec les Touaregs.
Oui, en plus, c'est un jeune homme. Hein. Ouais. Il a une vingtaine d'années. Alors, il est vrai aussi quelque chose chez Duverrier qui peut sembler un peu amusant dans sa fascination pour les Touaregs, c'est qu'il imagine aussi que ces Touaregs peuvent avoir un lien avec les compagnons de Saint-Louis, qui, lors de la mort de Saint-Louis à Tunis, lors de la croisade, un certain nombre des chevaliers accompagnant le roi de France, plutôt que de rentrer vers la mère patrie, se répartit vers le sud. Et c'est vrai qu'un certain nombre de voyageurs, d'explorateurs se disaient, mais enfin, sur la selle des Touaregs, cette croix, ou la croix du sud, ou la croix qui est aussi sur les boucliers, est-ce que ce n'est pas une très longue longue mémoire. Donc il y a tout un courant littéraire, un courant romanesque qui voit dans ces Touaregs qui fascinent tant Duverrier. Et Duverrier, à un moment, est un peu au bord de ce... de non pas de croire tout à fait ça, mais c'est une si belle légende. D'abord de remarquer que nous sommes en plus dans une civilisation où règne la monogamie, où la femme a un vrai pouvoir, ce qui n'est pas le cas dans d'autres groupes humains du Sahara, et où on trouve, on retrouve des textes du 19e, que les légendes Touareg s'apparentent vraiment à des légendes ou des contes bretons ou bourguignons. Donc on va avoir un moment, un long courant qui va durer encore au 20e siècle, qui tend à expliquer que ces Touaregs à la peau claire, eh bien, peuvent être des descendants des croisés. Et là, c'est une partie d'une autre science, hein, quand même un peu moins sérieuse que bien d'autres écrits de Duverrier et d'autres de ses compatriotes.
Alors, je voudrais vous faire écouter la voix d'un autre grand explorateur du Sahara. Alors, on arrive dans le 20e siècle, hein, on avance dans l'histoire de cette exploration. Henri Lot, qui raconte lui-même l'une de ses expéditions.
Personnellement, je restais haletant pendant plusieurs minutes, le souffle véritablement coupé. Une profusion de gravures de grande taille s'étalait sous nos yeux dans un cadre des plus impressionnants. Des éléphants de haute taille, des hippopotames, des rhinocéros, des girafes, des buffles, des figures humaines formaient des fresques harmonieuses et l'on se serait cru dans la galerie d'un musée lors d'un vernissage de qualité. Nul être vivant autour de nous, sinon nos chameaux, qui, tels des bêtes de l'Apocalypse, broutaient placidement les quelques touffes sèches de graminées qui poussaient çà et là dans la rocaille. Une surprise toutefois nous attendait, car, ayant remonté l'oued d'une centaine de mètres, je trouvais une minuscule petite mare aux eaux claires dans lesquelles frétillait toute une colonie d'élégants barbeaux aux corps argentés. Ces poissons jetaient encore un peu plus de confusion dans notre esprit et nous demandions, sincèrement, si nous trouvions bien au Sahara ou si nous étions l'objet d'un rêve.
Nos deux invités, Jean-Marc Duroux et Michel Pierre, en écoutant ce son, échangeaient des regards complices et amusés. Et vous me disiez, Jean-Marc Duroux, je l'ai connu.
Oui, j'ai connu Henri Lot. J'ai même bien connu Henri Lot. Alors, Henri Lot a effectivement est très connu pour les découvertes qu'il a fait au Tassili à Niger, aussi dans l'Oued Mamanet au Niger. Il est certain qu'il a fait un travail énorme avec son équipe sur place. Mais le vrai découvreur des peintures rupestres du Tassili n'est pas, évidemment, ce sont les Touaregs, puisque les Touaregs vivaient.
Évidemment, hein. Mais faut jamais oublier que nous, on ne fait que découvrir ce que des gens connaissaient parce que c'était leur environnement
absolument
direct.
Absolument. Et ça, c'est intéressant quand même de le mentionner. Mais le vrai découvreur est en fait le capitaine Brenant, des compagnies Méharis d'Alger, qui au moment des années 30, les Français explorent toute la région et Brenant va rentrer dans un oued au nord du Tassili, qui est l'oued Gérat. Et là, il va découvrir des milliers de peintures rupestres. Il va les noter, il va les redescendre, et il va envoyer ça donc à Alger, au professeur Regas, et là il va y avoir une mission qui va être déclenchée, et là on va réellement s'apercevoir qu'on est en face d'une multitude de peintures rupestres et de gravures rupestres du Tassili.
Alors ça, ces peintures rupestres, elles vous passionnent totalement, hein, Michel Pierre, et elles sont très révélatrices des changements qui ont eu lieu dans ces lieux.
Oui, il y a pendant des milliers d'années un certain nombre d'alternances entre les périodes d'aridité, les périodes plus humides. Nous vivons aujourd'hui une période d'aridité, mais il y a eu des moments où évidemment les précipitations au désert ont permis les cultures, l'élevage, l'agriculture, etc. Et pour en revenir à Henri Lot, justement, il est tellement stupéfié par la beauté de ce qu'il voit, de ces peintures d'époque néolithique, qu'il a du mal à un moment à considérer que ça peut être un art local. Donc il va s'évertuer pendant un laps de temps assez long d'y voir une influence égyptienne. Donc c'est un moment où dans la science occidentale, quand on découvre un certain nombre de créations locales, on n'arrive pas, du fait de leur beauté, de leur force, à leur donner une identité. Il faut qu'on leur rajoute ou qu'on les rallie ou qu'on les rapproche d'une grande civilisation. Et en fait, il avait tort.
Ah oui, il avait tort.
Hein, oui, il n'y a pas d'influence directement égyptienne dans cet art du centre du désert, que ce soit sur le Tassili Nadjer ou dans les Nédi tchadiens ou bien dans la Cacus libyen.
Oui. Et ce qui est intéressant aussi, hein, vous l'avez dit, c'est une zone qui a été, il n'y a pas si longtemps que ça, luxuriante, en tout cas avec une vraie végétation. C'est-à-dire que cette zone qu'on a l'impression dépourvue de vie n'a pas toujours ressemblé à ça.
Elle, aujourd'hui même, s'il suffit qu'il pleuve et puis on se retrouve dans un hogar tout vert. Il y a, disons, 5 ou 6 000 ans, nous étions quand même dans des zones de savane. Alors, ça n'a jamais été la Normandie, n'exagérons pas. Mais nous sommes dans des zones de savane très, très, très verdoyantes. Et le grand moment d'aridité que nous vivons toujours commence il y a à peu près 5 000 ans, disons 2000 à 3 000 avant Jésus-Christ.
Ce qui frappe, c'est que les noms que nous évoquons d'explorateurs, pour tout dire, ils ne sont pas connus du grand public. On les connaît très très peu. Une injustice qui n'avait pas échappé en son temps au célèbre Alain Decaux, bien décidé à faire connaître l'un de ses explorateurs oubliés.
Conrad Killian posait la question à 10 personnes rencontrées dans la rue. Vous aurez beaucoup de chance si une seule de ces personnes vous dit « Oui, j'ai entendu parler de Conrad Killian ». Parce que Conrad Killian, s'il est probablement l'un des personnages les plus extraordinaires de notre temps, est aussi l'un des plus méconnus. Ceux qui savent se souviennent, oui, qu'il fut un grand explorateur, qu'il a exploré, qu'il a traversé le Ténéré, qu'il s'est enfoncé dans le Sahara, dans le Fezzan. On sait aussi, peut-être, qu'il fut un très grand géologue. On sait, bien sûr, ceux qui savent que son nom est mêlé à jamais à la plus fabuleuse aventure de notre siècle, celle du pétrole.
Extrait de l'émission Alain Decaux raconte, diffusée en mars 1980. Bon, 36 ans plus tard, on ne peut pas dire que le nom de Conrad Killian soit tellement plus connu.
Oui, en fait, c'est vraiment un géologue de génie, puisque c'est lui qui en fait va faire est à la base de la découverte du pétrole. Alors c'est un aventurier, c'est un à la fois aventurier, un peu farfelu, géologue de génie, puisque même son père était un géologue de génie, c'est lui qui avait fait la géologie des Alpes. C'est un homme qui va prendre d'énormes risques en allant dans des endroits au Sahara où personne n'a encore jamais mis les pieds. C'est un homme qui va défendre aussi le pétrole qu'il suppose être au Sahara pour la France. Et ça va peut-être lui coûter la vie à la fin de sa vie, puisqu'il meurt, on dit, suicidé dans un hôtel à Grenoble. Et on n'a jamais su si, en fait, l'intelligence service britannique n'était pas un petit peu mêlée à ça, puisque les Anglais n'étaient pas forcément tout à fait d'accord que les Français exploitent le pétrole au Sahara.
Et alors, il suppose qu'il y a du pétrole. Quels sont les éléments qui lui font penser qu'il peut se trouver du pétrole sous le sol du Sahara?
On a quand même, dans les années 30, effectivement, quand Killian a cette intuition pour le Sahara français, on connaît quand même là où se trouvent les couches sédimentaires, etc., permettant ou laissant penser à une présence des hydrocarbures. Sauf que on ne le croit pas. Et même, alors j'ai retrouvé dans une revue américaine du début des années 1950, une revue spécialisée sur les hydrocarbures, où les Américains, alors que déjà des découvertes étaient sur le point d'être faites en Libye, considérait que dans le Sahara français, il y avait très très peu de raisons de croire que du gaz naturel ou du pétrole pouvait s'y trouver. C'est vrai que Conrad Killian a eu cette intuition. Alors, il est vrai qu'on l'a trouvé pendu à l'espagnolette de la poignée de la fenêtre de sa chambre dans un hôtel. Donc, c'est pas tout à fait une hauteur qui permet de se suicider. Et c'est dommage, en quelque sorte. Et c'est pas étonnant que Alain Decaux ait raconté son histoire, parce que c'est un véritable roman, quoi. C'est un roman scientifique, c'est un roman où on voit apparaître les services secrets, et puis c'est quand même quelque chose qui débouche sur la découverte du gaz naturel et du pétrole dans l'Algérie française alors.
Ce que je voudrais ajouter, c'est que le seul qui l'ait écouté en France a été le général Leclerc, en fait, qui a lu son rapport. Mais autrement, effectivement, comme je disais, mon ami, le problème, c'est qu'il est mort effectivement dans un hôtel de Grenoble. Conrad mesurait 1m78 et la poignée était à 1m20. Donc, oui, ça paraît peu plausible.
On a compris effectivement que l'affaire est pour le moins louche. Alors, un scientifique explorateur plus proche de nous, dont le nom restera à jamais associé au désert, c'est Théodore Monod. Jean-Marc Duroux, vous l'avez bien connu, c'était l'un de vos amis. Oui, Votre livre. L'exploration du Sahara chez Actes Sud est préfacé par
Théodore Monod. Oui, mais c'est une amitié de 30 ans. Hein. Ouais. Donc, nous avons été amis pendant 30 ans. C'était mon maître et mon ami. Effectivement, Théodore arrive au Sahara. Il est ischiologue. Il étudie les poissons.
Oui, il arrive. Complètement étonnant. Hein. Il est passionné par les poissons. Il y va pour étudier les poissons. Et très vite, son regard, qui était tourné vers la mer, se tourne vers le désert mauritanien qui se trouve derrière lui.
Voilà, vers un océan liquide. Il se tourne vers un océan sableux, et il ne va pas le quitter pendant 70 ans. Alors effectivement, c'est un véritable coup de foudre pour le désert, ça, il n'y a pas de problème. Il a la chance d'arriver dans un pays aussi qui est la Mauritanie, qui n'a pas du tout été étudié, qui vient juste d'être colonisé. Donc il va effectivement faire sa première méharé à la fin de ses deux années passées à Nouakchott, à Nouadhibou.
Méharé, c'est traverser du désert avec les chameaux.
D'ailleurs, c'est Conrad Kilian qui a inventé ce mot méharé, qui vient de chevaucher. Et méharé. Et en fait, Théodore va partir à partir de ces années 22, va commencer à explorer la Mauritanie. Il va faire la géologie, être le premier à faire la géologie de la Mauritanie. C'est un savant multidisciplinaire à la manière des savants du 19e, c'est-à-dire qu'il étudie aussi bien la botanique que la préhistoire, que l'ethnologie, que la géologie. Et ça va être il va très vite devenir un très très grand savant et un très grand explorateur, mais pas un aventurier.
Ouais, il tenait à cette nuance.
C'est un explorateur,
c'est un scientifique. Je vous propose de l'écouter, votre ami Théodore Monod, parler de son si cher désert.
C'est une école d'humilité d'abord, une école de résignation, parce que là on s'aperçoit qu'on ne nous commande plus. Pour le temps par exemple, là, nous sommes toujours pressés, nous, les Européens, toujours bousculés. On veut prendre un chameau comme on prend le train à 10h45 ou à 8h27. Mais non, c'est pas comme ça, les Bédouins. Mais si les chameaux n'arrivent pas aujourd'hui, ben ils arriveront demain. Et s'ils n'arrivent pas demain, ben peut-être qu'ils seront là après-demain. Et c'est eux qui ont raison, en réalité. Et puis alors, ça, c'est une leçon de frugalité aussi. Le nécessaire représente peu de choses. On peut simplifier à l'extrême un régime alimentaire, par exemple. Avec du riz, du thé, du sucre et quelques dattes, quelques arachides peut-être aussi, mais c'est pas très agréable. Et puis alors aussi, il y a une autre chose qui est simplifiée dans les déserts. Ici, le moindre bobo nous précipite chez le pharmacien, chez l'apothicaire. Mais là-bas, on traite les choses par le mépris. On a mal aux pieds, ben oui, on a mal aux pieds, mais il faut bien continuer à marcher, tant pis. S'il y a une ampoule, ben, et un jour ou l'autre, elle disparaîtra.
Théodore Monod, interviewé dans les Nuits Magnétiques de France Culture en 1990. On sent que c'est une école de la vie, de la rudesse, de l'humilité. Il y a trouvé beaucoup de choses dans ces déserts, Théodore Monod.
Oui, il a trouvé surtout le fait... je pense qu'il était vraiment amoureux de ce Sahara, parce que pour y passer 70 ans de sa vie, enfin, il n'a pas passé en permanence, hein, comme il me disait souvent, il me dit que les gens s'imaginent que j'ai passé 70 ans sur le dos d'un chameau. Entre-temps, j'ai quand même beaucoup travaillé dans mon laboratoire aussi.
Ouais. À 90 ans, il a fait sa dernière méharé, donc il y a quand même été jusqu'au
voilà,
bout.
Voilà, il a été jusqu'au bout, puisque en fait, même un an avant sa mort, il avait 97 ans, il partait en Mauritanie pour la dernière fois. Ouais. C'est exceptionnel. Il aimait le désert et en plus il y a fait des découvertes magnifiques, puisqu'en fait dès 1927 il découvre les gravures rupestres de l'Adraranet en Algérie, où il fait son service militaire. Il en fait le premier volume, il fait un volume magnifique sur ces gravures rupestres. Donc il aborde la préhistoire avant même Lot, et ensuite il va découvrir une petite plante, la Monodiella fluxiosa, dans les montagnes du Tibet pendant les années 40. Enfin, je veux dire, il touche à tout. Ouais. Et ça, c'est fantastique.
Michel Pierre.
Oui, puis alors, il a un véritable goût de donner, de transmettre son savoir. C'est-à-dire qu'en dehors, la qualité scientifique et la recherche, c'est formidable, mais quand en plus on a le talent de faire passer ce qu'on connaît, avec en plus dans ses écrits une forme d'humour qu'on sentait un petit peu dans ce qu'il déclarait, qui est tout à fait extraordinaire. Et c'est vrai que ces textes aujourd'hui se lisent avec tout autant de bonheur qu'au moment où il les a écrits.
Et pour terminer, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à découvrir dans ce Sahara qu'on connaît quand même beaucoup mieux qu'il y a 150 ans, qu'est-ce qui reste à découvrir ?
Je pense qu'il y a encore énormément de sites, puisqu'on parlait préhistoire, qui restent encore à connaître, ou j'allais dire à reconnaître, ou à redécouvrir, ou à repartir, ce que nous espérons tous par rapport à la situation actuelle. Mais il y a encore un certain nombre de choses à bien sûr à connaître, et puis aussi pour préserver la vie et la survie des populations qui s'y trouvent.
Jean-Marc Duroux.
Oui, parce que tout n'a pas été encore découvert. Le Sahara est immense, et en fait, je prends un exemple simple. Il y a une vingtaine d'années, on m'a découvert au nord d'Agadez, sur un lieu où en fait pas mal de gens passaient, une petite montagne d'une vingtaine de mètres de haut sur 50 mètres de long. Et sur cette montagne, qui était enfin ce petit rocher, je dirais même, on m'a découvert des girafes somptueux, des gravures de girafes, grandeur nature. Le lieu s'appelle Dabous, et on est passé pendant des années, les gens sont passés
à côté, les voir.
Sans les voir.
Incroyable.
Et en fait, les nomades qui étaient là ne les avaient jamais signalés. Donc, si vous voulez, on peut découvrir encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ce merveilleux
lieu. Ça n'est pas pour nous déplaire. Alors, je rappelle les titres de vos ouvrages pour ceux qui voudraient en savoir plus. Jean-Marc Duroux, L'exploration du Sahara, édition Actes Sud. Le grand rêve saharien, aux éditions Actes Sud également. Et puis aussi Théodore Monod, Une vie de saharien, chez Vent de Sable. Pour vous, Michel Pierre, il y a Sahara, le grand récit, paru chez Belin. Merci à tous les deux, c'était un vrai plaisir de vous entendre nous conter le désert. Et à 14h55, il est l'heure de retrouver le docteur de la tête au carré.
France Inter, santé polémique, avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Daniel.
Alors c'est un petit peu Churchill et son célèbre No Sport qui semble avoir inspiré votre chronique du jour.
Oui et non Daniel, parce que alors qu'il avait 80 ans et qu'on l'interrogeait sur le secret de sa forme, le grand Winston, ancien grand sportif, aurait en fait répondu Cigars, Whiskey and Low Sport, c'est-à-dire un peu de sport. Et il avait tout à fait raison, car le sport c'est bon pour la santé, mais point trop d'infos et pas n'importe lequel. En fait, le sport de loisir, c'est assez récent comme concept. Pendant des siècles, l'homme s'est littéralement usé au travail. Et encore aujourd'hui, c'est dans les métiers les plus physiques, maçons, agriculteurs, pêcheurs, qu'on trouve l'espérance de vie la plus basse. Donc, si le sport existe depuis l'Antiquité, l'exercice physique gratuit, celui qui ne produit rien, ne s'est vraiment démocratisé qu'au XXe siècle chez les travailleurs qui étaient devenus sédentaires.
Pourtant, l'éducation physique, c'est une discipline scolaire.
Oui. Ça a été introduit à l'école en 1880 sous le nom de gymnastique. Mais en fait, son principal objectif, c'était de préparer les adolescents à être des soldats efficaces après la raclée que venaient de nous infliger les Prussiens. D'ailleurs, les premiers profs de gym étaient des militaires, on le sait pas toujours. D'où l'ambiance de discipline et de silence qui a laissé des traces durables dans cet enseignement. Alors, bien sûr, on a des données scientifiques assez solides pour penser qu'une activité physique régulière est bonne pour la santé. Mais attention aux excès, tout aussi néfastes que l'inactivité. Par exemple, je suis surpris de voir le nombre de gens qui sont attirés par la pratique du marathon. Apparemment, ils ont oublié que dans cette semi-légende, le messager grec, il est mort en arrivant quand même. Donc, notre corps, il a été modelé par l'évolution pour courir, pour se battre, bien sûr, mais pas pendant 3 ou 4 heures. Et de même, finalement, les cartilages de nos articulations, c'est des pièces d'usure. Et donc, plus on les utilise, et plus ça accélère l'arthrose.
Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez en termes de santé? C'est quoi le bon comportement, la bonne dose de sport?
En fait, l'idéal, c'est d'avoir un exercice physique modéré, mais quotidien. Par exemple, vous marchez deux fois un petit quart d'heure d'un pas rapide, c'est-à-dire, en fait, il faut être à la limite de l'essoufflement sur votre trajet quotidien entre le domicile et le travail. C'est largement suffisant pour aller bien. Pareil pour un quart d'heure de footing si vous préférez avant le déjeuner, ou pour vous déplacer à vélo ou faire la natation trois fois par semaine.
D'accord, pas plus que ça alors.
Oui, absolument. Maintenant, si on préfère jouer au squash ou au foot le week-end, pourquoi pas, mais il faut s'échauffer au moins 10 minutes avant de jouer, et puis il ne faut pas en faire trop, surtout après 40 ans. Alors à propos d'échauffement, et pour conclure, je voudrais tordre le cou à une recommandation aussi stupide que répandue, à savoir qu'il faudrait prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur au bureau. L'escalier, que ça soit en descente comme en montée, c'est très traumatisant pour les genoux, surtout si vous êtes gros. Alors, cette contrainte brutale, sans échauffement et complètement délétère, alors que, finalement, l'effort cardiaque est trop bref pour avoir un quelconque effet positif, c'est donc idiot. Il vaut mieux prendre l'ascenseur entre deux réunions, et en revanche, quand vous rentrez chez vous, vous marchez d'un bon pas en allant éventuellement à la station de métro plus lointaine que celle qui est en face de votre bureau.
Vous venez d'ébranler toutes mes certitudes
c'est
en matière de sport.
C'est le but de ma chronique habituellement, je vous rappelle.
Écoutez, c'est réussi. Alors merci Dominique Dupagne. Et à la semaine prochaine, on pourra faire moins de sport en disant « c'est le médecin qui m'a dit ».
On verra à quoi sert l'orgasme féminin, ça va être une rubrique intéressante.
Ah, c'est la semaine prochaine.
Oui, il paraît qu'il y a une question qui se pose à ce sujet.
À jeudi prochain alors. Juste après les infos, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel pour une nouvelle affaire sensible. Bonjour Fabrice.
Bonjour, je voulais féliciter votre chroniqueur. Médecin. C'est tellement agréable de ne plus entendre dire « fais du sport, tout le temps, du sport, du sport ». Formidable, merci monsieur.
Bon. Très bien, et dans l'affaire sensible, de quoi on parle?
Des extraterrestres, figurez-vous. Ah, ouais, mais c'est une affaire sensible, des extraterrestres. Disparition à Cergy, un jeune homme enlevé par des extraterrestres. Et nous en parlerons avec notre invité Franck Morin, il est ufologue. Vous savez ce que c'est qu'un ufologue?
Quelqu'un qui étudie les ovnis?
Ouais, c'est un spécialiste des extraterrestres, exactement.
Très bien. Eh bien, on écoute ça juste après, les affaires sensibles, spécial extraterrestre.